très bien, il y a Nicolas Sarkozy qui va aider les paysans, comme il les appelle, et il va leur donner des sous, et à mon avis, ça n'a rien à voir qu'il annonce ça juste avant les régionales. Surtout, ne faites pas d'amalgame. Merci, au revoir.
Bonjour, c'était au sujet de l'émission sur le Free Fight, le MMA que j'ai entendu. J'ai trouvé que l'émission, je vais essayer de faire bref parce que c'est un sujet très dense. J'ai trouvé que l'émission n'était pas trop caricaturale, mais je vois déjà sur les critiques des auditeurs sur le site internet, et j'imagine que ça va être pareil sur le répondeur, des gens un peu indignés, sommes-nous des animaux, des choses comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un sport qui a moins de blessures dans ce sport que dans beaucoup de sports de boxe, poing ou pied-poing. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mélange simplement de pieds-poings comme la boxe thaï, le kickboxing, même le karaté et de lutte. Et que beaucoup de combats se terminent par des clés, des étranglements, donc sans forcément des fusions de sang. Il faut savoir que les combattants sont très bien préparés, que dans les grandes organisations, les arbitres sont très présents et ils arrêtent vraiment le match au bon moment. Il y a 10-15 ans, on voyait des trucs qui étaient vraiment des boucheries avec des différences de poids énormes entre les combattants et des arbitres pas prêts et des gens pas prêts à se battre dans ce style de combat. Mais maintenant, ce sont des athlètes préparés. Être au sol ne veut pas forcément dire qu'on se fait laminer lamentablement. Le combat au sol est une tactique à part entière où les gens savent se battre au sol. Et voilà, faut essayer de se renseigner un peu. Je vois que les gens partent direct au quart de tour en se disant « Oh mon Dieu, c'est horrible ». Non, c'est une forme de combat qui intéresse beaucoup de combattants parce qu'elle est plus poussée que les autres formes de combat qui étaient accessibles jusqu'à présent, qui différenciaient d'un côté lutte et d'un côté coup à distance. Là, tout est mélangé pour quelque chose de plus complet. Et les gens qui combattent sont des combattants qui ont du courage et qui ont envie d'aller au bout d'eux-mêmes dans la recherche du combat de l'adversité. Et donc pour eux, c'est une nouvelle forme pour aller plus loin dans ce domaine-là, et c'est relativement maîtrisé. Après, il peut y avoir des organisations plus bas de gamme, avec plus d'alcooliques autour du ring, comme on peut le voir parfois, qui sont peut-être un peu moins bien contrôlées, mais ça reste un sport.
Bah, bravo à Pascal Scariello et Guy Vanctil, parce qu'ils ont vraiment réussi à traduire à travers les ondes ce qu'on peut ressentir comme émotion quand on vit ce genre d'expérience, puisque quand j'ai assisté aux quelques combats de mon petit frère, c'était vraiment cette ambiance-là. Que dire si ce n'est que derrière ce côté très expérimenté, on se rend compte que la vie des personnes est mise en danger. J'en veux pour preuve le fait qu'il y ait une panique monstrueuse quand il arrive quelque chose à Bruno et qu'on soit un petit peu désœuvré à se dire est-ce qu'ils vont arriver à le sauver, est-ce qu'ils vont arriver à trouver un médecin, est-ce qu'ils vont arriver à faire le nécessaire. Donc c'est vrai que le côté suspense là, il était bien nourri. J'ai pas trop apprécié à nouveau le ton avec lequel tu as un petit peu commenté les émissions, parce que j'ai l'impression que tu regrettes que ce genre de pratique soit interdite en France. Moi, au contraire, je suis très contente que ça soit interdit en France, et j'aimerais que ça soit interdit dans le reste du monde, ou en tout cas en Europe, parce que j'ai pas envie, en tant que bas peuple, de me dire qu'il y a des gladiateurs des troisième millénaire qui sont là pour engraisser des profiteurs, comme ça a été le cas de mon petit frère. Alors, il y a beaucoup de rancune dans mon ton, tant mieux, si c'est ce que tu ressens, tant mieux, parce que c'est vraiment ça, c'est très difficile d'enterrer quelqu'un à 25 ans à cause des autres, simplement parce qu'il avait la passion du sport, simplement parce qu'il avait envie de se surpasser, simplement parce qu'il allait vers les autres. Voilà.
Triste rencontre sur les routes de Normandie depuis quelques jours. On y rencontre en effet le prototype d'une certaine jeunesse que veut apparemment façonner le système sarkozyste. Ils ont une vingtaine d'années, portent un gilet jaune pour qu'on les voit bien de loin. Ils sont souriants et dynamiques. Et ils vous arrêtent au rond-point en vous expliquant très courtoisement qu'ils vont pas vous ennuyer longtemps, qu'ils ont l'autorisation préfectorale pour solliciter votre charité. Voilà, ils sont de milieu modeste, en formation pour devenir infirmier, aide-soignant ou autre, et ils prennent en main leur avenir, c'est ce qu'ils vous disent. Ils font la manche avec la bénédiction de l'État. Quand on leur répond que se battre pour plus de justice sociale, ce serait peut-être mieux que de mettre toute son énergie à mendier, ils ne comprennent pas. Comment ? Mais vous ne voyez pas que nous sommes là plein de volonté pour nous en sortir ? Et d'ailleurs, le préfet nous encourage. Voilà donc des jeunes qui ont intégré l'idée que leur avenir passe par la charité privée, pas par la justice sociale. Hier, je leur ai rien donné. J'ai continué ma route avec cette drôle d'image de jeunes dont on entretient l'absence de conscience sociale et politique. Des jeunes qu'on encourage à s'en remettre à la charité en les convaincant qu'ainsi, ils sont des gagnants, les winners de la société sarkozienne. Faut peut-être pas laisser faire ça, hein.
Peut-être qu'il ne faut pas laisser faire ça. Merci en tout cas pour ces messages, chers AMG. Je vous ai demandé si vous aviez des tuyaux sur Berlin, sur le 20e anniversaire de la chute du mur. Il y a des messages qui nous parviennent, mais continuez. Je rappelle le numéro du répondeur de la base si j'y suis, 01 56 40 37 37. Vous savez d'ores et déjà que le 9 novembre prochain sera consacré entièrement à cette célébration sur toutes les ondes de Radio France, et la base IG Suisse sera à Berlin. Alors voilà, si on va partir en reportage avant, si vous avez des idées, des tuyaux, des pistes, des suggestions, etc., on est preneurs. Et c'était il y a 20 ans le triomphe absolu et indiscutable de la démocratie sur le communisme. C'était la fin de l'histoire, c'était le triomphe de Tina. Tina, there is no alternative. Et ben, lundi en 8, 20 ans après, dans l'euphorie de la célébration, il sera difficile de ne pas constater que l'idéal du socialisme n'a pas été emporté par le naufrage, comme on le disait il y a 20 ans. La RDA, la République démocratique allemande, a sombré, nul ne le regrette, mais pourtant l'idéal du socialisme lui a survécu et même s'est renforcé ces temps derniers en Allemagne, notamment avec le succès du parti Die Linke. Est-ce l'ostalgie, ce qu'on appelle l'ostalgie, nostalgie, c'est-à-dire la nostalgie de l'Est en matière de plein emploi, d'éducation, de santé, de la place des femmes dans cette République démocratique allemande. Certains peuvent le regretter, mais surtout, il y a en 20 ans les effets de ce que Naomi Klein, cette chercheuse journaliste canadienne, appelle le capitalisme du désastre. Et c'est vrai qu'en matière d'environnement, en matière d'inégalité sociale, on a vu, évidemment, en 20 ans, même si on avait déjà vu, on avait une petite idée avant 1989, mais enfin depuis 20 ans, l'éclatement et le développement de ces atteintes aussi bien à l'environnement qu'à la société, et notamment à travers toutes ces séries de privatisation. Et sur ce thème-là, Naomi Klein a publié, il y a déjà un certain temps, il y a 2 ans, je crois, un gros livre formidable qui s'appelle « La stratégie du choc » ou « La montée d'un capitalisme du désastre ». On va revenir aujourd'hui sur ce bouquin. Hier, c'était la castagne à Glasgow. Ça vous a un peu surpris, ces reportages. On continuera de vous proposer, de vous présenter des trucs un peu surprenants, comme ça, qui changent un peu le cours de nos préoccupations et de nos reportages. Mais là, on revient à Naomi Klein. Parce que ce qu'elle démontre d'une façon formidable dans ce livre, elle n'est pas la seule, mais elle contribue, c'est une contribution notoire, à dire et à montrer et à prouver, à porter toute une série de preuves que tout cela a été pensé, a été voulu, organisé. Mais je dis bien pensé, que ce néolibéralisme qui s'est installé partout, qui domine partout, n'était en rien une évidence, n'allait de soi, n'avait absolument évidemment rien de naturel. C'est ce que Serge Halimi avait démontré déjà dans son grand bond en arrière, un gros bouquin lui aussi. Et là, Naomi Klein explique les choses par le désastre. À chaque fois qu'il y a un désastre, qu'il soit dû à des conflits militaires ou pour des raisons naturelles, à chaque fois, ce capitalisme a progressé, si on peut dire, on peut évidemment mettre le mot progrès là pour le coup, entre guillemets, a avancé et s'est développé jusqu'aux situations qu'on peut observer et qu'on peut subir surtout aujourd'hui partout, un peu partout sur cette planète bien-aimée, d'où l'intérêt de ce bouquin et de cette heure que nous allons passer à nouveau avec Naomi Klein. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, le rendez-vous du repère de là-bas, si j'y suis, en Vendée, ce mercredi de 20h à 22h. Rendez-vous à la Pitchouli, place de l'Abbé Grelier à Chaland. Alors au programme, entre autres, quelles sont les libertés publiques qui nous ont été retirées depuis 10, 20, 30 ans, ou plus, ça dépend de l'âge de chacun. À demain.
Bonjour, c'est Paul Marcel de Toulouse. Voilà, c'est tombé ce matin, 4 premières lettres de licenciement pour fait de grève à ERDF et GRDF. Et par hasard, 4 militants CGT. Le seul but de la manœuvre, fracasser le service public et les agents qui le défendent. Alors ce message s'adresse à tous les AMG, mais aussi aux citoyens et surtout aux élus locaux de la République, qui sont les seules autorités compétentes de l'énergie. Votre soutien est primordial. Une telle honte ne s'est pas produite à EDF et à GDF depuis les années 50. En nous soutenant, vous défendez aussi le service public, le droit de grève, ainsi que la famille des agents sanctionnés. Le piquet de grève se situe au centre EDF de Bassocambeau à Toulouse. Et Daniel, si tu manques de sujet, tu es invité et le cassoulet sera offert à toute l'équipe. Animo, soit.
Salut Daniel, salut les auditeurs de France Inter. Le collectif Vaucluse sans OGM vous invite à venir manifester vendredi 30 octobre à 14h devant l'usine de Monsanto en hommage à toutes les victimes de cette multinationale. Et je pense au peuple vietnamien avec l'agent orange, je pense aux agriculteurs d'Amérique du Sud victimes du Roundup, je pense aux agriculteurs indiens victimes de leur coton OGM, et je pense bien évidemment aux agriculteurs français souffrant de maladies dues aux pesticides que cette multinationale déverse allègrement dans nos campagnes françaises. Ce message s'adresse à tous les citoyens engagés, associations, et puis Daniel, si tu as rien à faire, viens faire un petit tour dans Provence, c'est encore charmant pour l'instant. Merci à tous.
Bonjour à tous les AMG. Salut à Mermet, à son équipe. Voilà, c'est reparti pour le repère du Vigan. On était peut-être un peu en sommeil, mais on est toujours là. Et la preuve, c'est que grâce à Vincent, ça repart. Dès jeudi 19h, au petit comptoir, au Vigan, rue de la Calade. Alors, on sera chez Christelle et Vincent, et pour redémarrer le service public. Voilà, bis à tous, salut.
Salut à toute l'équipe de là-bas si j'y suis et à tous les AMG. Voilà, moi je vous appelle pour vous faire parvenir une info qui est passée presque inaperçue dans les médias, qui concerne une déclaration qu'a fait Lionel Lucas, qui est député UMP des Alpes-Maritimes vendredi dernier. Alors pour ceux à qui ce nom évoque rien, je rappelle que ce monsieur est parmi d'autres à l'origine de la proposition de loi faite le 8 avril 2004 tendant à rétablir la peine de mort pour les auteurs d'actes de terrorisme. Déjà 7 ans auparavant, il affirmait que la seule façon d'empêcher la récidive des crimes sexuels est la peine de mort. Bon, je reviens à la déclaration qu'il a faite, mais le plus simple c'est que je vous lise le mail que je lui ai envoyé ce matin même, parce que j'étais un petit peu en colère. Monsieur Lucas, c'est la première fois que je m'adresse à un élu par voie écrite et je me permets de le faire car il me semble que vous avez outrepassé vos droits. Vous avez en effet déclaré concernant les Afghans récemment expulsés vers leur pays d'origine, et là je le cite mot pour mot, « Je trouve un petit peu indécent qu'on s'apitoie sur leur sort quand au même moment, nos soldats se battent pour leur liberté. S'ils étaient des hommes, ils se battraient pour leur liberté sur leur territoire. Des hommes ont tout quitté pour venir demander un asile, recommencer une nouvelle vie sur une nouvelle terre. Non content de leur refuser ce qu'ils espèrent, vous vous permettez de les insulter, leur refusant même l'appellation d'homme. Outre l'injure directe que vous faites à tous les migrants du monde ayant fui un conflit armé, c'est un déshonneur profond que vous jetez sur les idéaux de la République et sur tous ceux que vous représentez. Monsieur le député, sachez par cette lettre qu'aujourd'hui en France grimpe une colère face au cynisme dont vous et votre majorité faites preuve depuis des mois, et qu'à l'heure où Éric Besson se sent entendu et soutenu par le peuple, il existe sur cette terre de France un autre peuple tout aussi vaste, bien décidé à faire en sorte que le mot fraternité ne soit pas qu'une décoration au fronton des mairies. Je termine par quelques formules de politesse que j'ai le tact comme le plaisir de garder secrètes. Voilà Daniel, c'était Sébastien de Lyon, maintenant j'attends sa réponse, je vous tiens au courant dès que je la reçois, et comme le cri d'un même cœur Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, que tombent les murs.
Les années 40 ont été une décennie de découvertes charnières dans le développement de la médecine et de la psychiatrie. Les scientifiques ont développé une nouvelle technique pour soigner les adultes atteints de maladies mentales, l'électrochoc. Ce dernier nettoie le cerveau des patients en leur permettant de prendre un nouveau départ. Sur la page blanche ainsi obtenue, il devient possible d'imprimer une personnalité neuve et saine.
Refaçonner les individus, les mettre en état de choc afin de les soumettre. Un traumatisme collectif, une guerre, un coup d'État, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste plonge tout à chacun dans un état de choc. C'est ainsi qu'après le choc, tel le prisonnier dans la salle d'interrogatoire, nous redevenons des enfants, désormais plus enclins à suivre les leaders qui prétendent nous protéger.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Renaud Lambert. La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre, Naomi Klein.
Flight number 2, arriving from Newport.
Alors, Naomi Klein, on va dire Naomi Klein, oui
Klein en anglais, mais Klein en français.
Vous avez publié un bouquin qui a fait un grand bruit, qui s'appelle The Shock Doctrine, et qui est traduit en français, qui est sorti en France aux éditions Actes Sud. La stratégie du choc. C'est un gros bouquin de 672 pages qui raconte comment les fanatiques du marché profitent des cataclysmes naturels ou non pour imposer leurs mesures économiques à des pays dévastés ou des régions dévastées, allant même parfois, comme en Irak, jusqu'à provoquer ce chaos. Et la métaphore qui pourrait illustrer votre démonstration, c'est l'image du théâtre en feu. Il y a un théâtre en feu, c'est la panique, et évidemment le public cherche à sortir du théâtre. Et une voix s'élève et dit « c'est par là ». Et la voix qui crie « c'est par là », pour vous, c'est celle du néolibéralisme que vous appelez le capitalisme de la catastrophe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette métaphore ?
Plus ou moins, oui.
Plus ou moins, alors allez-y pour le moins.
it's certainly this is an economic. I'm talking about an economic and political strategy.
Moi, je parle d'une stratégie politique et économique.
And the image of the theater is certainly a graphic one.
Et cette image du théâtre fonctionne très bien, effectivement.
But it's not simply that people run; it's also that they follow.
Mais pour moi, ce qui est important de dire, c'est que les gens ne courent pas pour la sortie, ils suivent.
And the question is, who are they following and who is taking that leadership role?
Et là, toute la question est de savoir qui suivent-ils et qui leur montre la sortie de ces théâtres en feu.
But the main reason why I focus on these states of shock and the exploitation of the states of shock.
Mais la raison pour laquelle moi je m'intéresse à cet état de choc et la façon dont on les utilise
is to challenge the central lie of neoliberalism, which is that it has conquered the world because the people of the world demanded it.
L'idée pour moi, ça a été de remettre en cause le mensonge sur lequel est fondé le néolibéralisme, qui est que les gens l'attendaient, qu'il est naturel.
La plus grande puissance du monde ne s'imaginait pas vivre de telles scènes de désolation et de chaos.
Ces images ont fait le tour du monde depuis hier et sont déjà, tristement, entrées dans l'histoire.
Quatre jours après le passage de Katrina, les dégâts humains et matériels sont impossibles à évaluer. On parle de milliers de morts.
5000 en Indonésie et plus de 1000 dans les îles du sud de la Thaïlande. Il y a aussi 30 000 disparus.
La mort, elle est partout.
1 million de personnes ont dû fuir leur foyer après la catastrophe et beaucoup ont tout perdu.
Panique sur l'île.
Il s'agit du plus violent séisme dans le monde depuis 40 ans.
Nous sommes au nord du Sri Lanka, en territoire tamoul, dont la côte est a été balayée hier par le raz-de-marée.
Une dernière convulsion après cette journée d'apocalypse, Manhattan vient de perdre un troisième building. Hier, un peu avant 9h du matin, heure locale, un avion de ligne détourné s'écrase sur un gratte-ciel. 18 minutes plus tard, un deuxième appareil, un Boeing 757, sans doute guidé par les pirates de l'air aux commandes.
A new world order. A new world order.
11 septembre 1973. Santiago du Chili. Palais présidentiel de la Moneda. Un militaire putschiste.
Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now.
Alors, vous prenez toute une série de faits. Je rappelle que vous êtes journaliste et dans beaucoup de choses que vous racontez, il s'agit de reportages. Vous y êtes allé physiquement, comme le reporter que vous êtes. Il y a des endroits où vous pouvez pas être, évidemment. C'était, par exemple, en 1973, le 11 septembre 1973, à Santiago, au moment où Pinochet a pris le pouvoir au Chili. C'est un peu le point de départ de votre travail, parce que derrière Pinochet, il y a Milton Friedman, votre ami Milton Friedman, et vous prenez ensuite toute une série d'exemples qui n'ont pas l'air, comme ça, a priori, d'avoir une cohérence. Vous parlez de la Nouvelle-Orléans, enfin de Katrina, vous parlez du Sri Lanka, vous parlez de la Pologne, vous parlez de la Russie, vous parlez toute une série d'événements, mais vous leur trouvez quelque chose en commun, c'est qu'à chaque fois, ces catastrophes, ces cataclysmes, ces drames, etc. Et le traumatisme vécu par les populations est l'occasion par ce que j'appelle moi les djihadistes du marché d'imposer leur vision des choses, leur politique et de forcer les populations, comme vous dites, à les suivre. Alors, je veux bien qu'on commence avec le Chili. Est-ce que c'est le point de départ le Chili, 73?
Yes, and it is recognized by many neoliberal economists as the first laboratory for
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'économistes néolibéraux qui reconnaissent le Chili comme un laboratoire pour la mise en œuvre de leur politique.
So I start with Chile because they start with Chile.
Donc moi je commence avec le Chili parce que eux-mêmes commencent avec le Chili.
Mm-hmm. Often when the sort of triumphant history is told, there's a little bit of a sort of fudging of the dates where they'll start with Reagan and Thatcher and forget about Chile.
Souvent, quand il raconte l'histoire glorieuse du néolibéralisme, eh bien, il trifouille un petit peu les dates. Il commence avec Reagan, Thatcher, et ils oublient le Chili.
But if we look at the analysis and the reporting in the 70s, there was a recognition from Friedman, from Hayek, that this was the first time their ideas were being tested.
Mais si on regarde ce qui était écrit dans les années 70, Friedman et Hayek eux-mêmes reconnaissaient que c'était la première fois que leurs idées, les idées qu'ils promeuvaient, étaient testées grandeur nature.
And I quote letters between Hayek and Thatcher, talking about the Chilean model and whether it could be transplanted to Britain.
Et d'ailleurs, je cite des lettres entre Hayek et Thatcher, Margaret Thatcher, qui parlent du modèle chilien et de la possibilité de le mettre en œuvre aussi en Grande-Bretagne.
Qu'est-ce qui s'est passé en 73? Pinochet prend le pouvoir et il appelle Friedman, il appelle les gars de l'école de Chicago.
Well, it went back further than that.
En fait, ça remonte un peu plus loin.
The reason why Chile became this laboratory for this extreme, as you say, the market jihadists.
La raison pour laquelle le Chili est devenu ce laboratoire pour ce que vous appelez les djihadistes du marché.
Is because of something that happened actually in the 1950s.
C'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans les années 50.
Which is that the State Department, the United States State Department, was concerned about the emergence of a group of left-wing economists in Santiago.
En fait, à l'époque, le département d'État était très préoccupé par l'arrivée d'un groupe d'économistes de gauche à Santiago même.
And they were worried, of course, about the threat that this posed to U.S. mining interests and other interests. In Chile.
Et tout cela posait des problèmes pour les intérêts miniers, les intérêts américains, états-uniens en général, au Chili.
So they began an academic program to bring Chilean students, 100 students in all, to the University of Chicago to study under Milton Friedman and his extremist colleagues.
Donc on a ouvert un programme universitaire par lequel on a fait venir une centaine d'étudiants chiliens pour étudier avec Milton Friedman à Chicago, justement pour contrer l'essor de ces économistes de gauche à Santiago.
So this was the real influence of Friedman in Chile. Yes, Pinochet, and he did meet. Yes, he was an advisor, but that was only a fraction of the influence that the University of Chicago had.
Donc Friedman a bien rencontré Pinochet, il a eu une influence à ce moment-là, mais si on veut vraiment voir l'impact de Friedman, il faut remonter aux années 50, et c'est là vraiment que ça commence.
Because what that meant was that even before the coup took place, as as soon as Allende was elected in 1970, the plan began for the overthrow and also the post-Allende era.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que même avant le coup d'État, tout était en place pour déclencher ce qui allait être la phase post-Allende.
So the military prepared the armed intervention and the economists prepared the laboratory that would take place afterwards.
Donc les militaires ont préparé l'intervention armée et les économistes ont préparé l'intervention économique.
And these of course were the famous Chicago Boys.
Et ça c'est les Chicago Boys.
Mais il y a une contradiction là-dedans, Naomi. C'est-à-dire que Pinochet, c'est la dictature, c'est l'ordre. On voit ce que c'est, très bien. L'image est très claire. Et Friedman, c'est la liberté. C'est chacun fait ce qu'il veut, c'est l'ouverture, le libre-échange, c'est tout un tas de mots formidables qui plaisaient à l'époque. On était dans une période libertaire où chacun fait ce qu'il entend, on sort du carcan, on sort de l'État. L'État était très critiqué dans ces années-là. Donc, Friedman, c'est la liberté, et Pinochet, c'est la dictature. Je parle d'image. Comment ça s'emboîte?
Well, this is the reason why we need an alternative history of neoliberalism.
Tout ça, ce que vous expliquez, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une histoire alternative du néolibéralisme.
The hypocrisy of the neoliberal project begins in its first laboratory and continues to this day on Wall Street.
L'hypocrisie du projet néolibéral commence à cette époque et continue aujourd'hui à Wall Street.
But the fact is that no democratic government in the world would implement Milton Friedman's extreme ideas. It took a brutal military dictatorship to have the courage, if you will, to use the repression necessary to impose these ideas.
Mais la vérité, c'est qu'aucun gouvernement démocratique à l'époque n'aurait mis en œuvre les mesures prônées par Milton Friedman. Il fallait un gouvernement dictatorial pour l'imposer, y compris par la force.
C'est une fondamentale hypothèse clé de ce manuel et que de telles techniques constituent, par essence, autant de méthodes pour obtenir une régression de la personnalité. On constate un moment parfois extrêmement bref d'apathie, une sorte de choc psychologique ou de paralysie. Les meilleurs spécialistes de l'interrogatoire reconnaissent un tel moment quand il intervient et savent que le sujet est alors nettement plus ouvert aux suggestions et bien plus susceptible de coopérer qu'avant l'administration du choc.
Je suis sûr qu'à tous les coups, avant même qu'on en soit là dans la rencontre, on vous dit, d'accord, on a compris, vous voyez une théorie du complot. Pour vous, il y a une théorie du complot. Comment vous vous défendez? Parce que vous allez dire non, mais comment vous dites non?
Well, this, I guess I don't see it as a conspiracy because it's an open conspiracy.
Moi, je vois pas ça comme un complot parce que ça se fait à découvert, c'est très public.
My evidence in the book, and as you know, there's a lot of documentation in the book, comes directly from the neoliberal economists who, in their technocratic writings, have deeply explored the connection between their ability to impose these policies and the presence of profound crisis.
Moi, tout ce que je dis s'appuie sur des documents que j'ai trouvés dans les analyses technocratiques des néolibéraux eux-mêmes, qui montrent très bien le lien entre les mesures qu'ils mettent en œuvre et ces moments de crise qu'on rencontre.
So all I'm saying is the politicians know about this strategy, the economists know about this strategy, and it's long past time that the public knew about this strategy.
Et tout ce que je dis, moi, c'est que les politiciens connaissent ces stratégies, les économistes connaissent ces stratégies, et il est grand temps que le grand public les connaisse lui aussi.
And it's been very exciting for me with the book in the United States because where I'm really seeing is that the book has been useful to a lot of people in understanding what's happening during this economic crisis.
Et j'ai trouvé que ça a été assez excitant pour moi de voir comment mon livre devenait utile pour tout un tas de gens qui cherchaient à comprendre ce qui se passe dans la crise économique que nous traversons.
Because that's the way I think of my work, not as an explanation of everything, but really just as a tool that people can use to be, you know, more engaged as citizens.
C'est comme ça que je vois mon travail, pas fournir des explications, mais plutôt une boîte à outils que des gens peuvent utiliser lorsqu'ils veulent s'impliquer, s'engager éventuellement.
And once again, it's not a conspiracy. You know,
encore une fois, c'est pas un complot. Hein.
I'm not sure the extent to which Europeans understand that the think tank industry in the United States is a multi-billion dollar industry.
Je ne sais pas exactement à quel point c'est clair pour les Européens que les think tanks, ces boîtes à idées, représentent une industrie de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis.
They are much more powerful than the universities.
Ils sont beaucoup plus puissants que les universités.
They have unlimited funds given to them by the elites.
Ils ont des fonds illimités qui proviennent directement de l'élite.
And so their job really at the think tanks, the reason why this industry emerged, and Milton Friedman was one of the architects of the think tank industry, was precisely to keep the ideas ready for whatever crisis hit.
Et leur boulot, eux, ça a été exactement ça. C'est une des raisons pour lesquelles Milton Friedman a participé à leur création, c'est d'être là, prêt, avec les bonnes idées au moment opportun pour les répandre dans le public.
Then you have the corporate lobbyists who are a whole other huge industry.
Et donc vous avez après les lobbyistes du patronat, c'est une industrie immense elle aussi.
So I mean, I don't think capital is stupid. I don't think they spend billions of dollars on the lobbyist industry and the think tank industry because it's not useful to them. I think they do it because it is useful.
Et je ne pense pas que les capitalistes soient totalement stupides. Je ne pense pas qu'ils dépensent des milliards de dollars dans ce type d'industrie parce que c'est absolument inutile pour eux. Je pense qu'au contraire, s'ils le font, c'est qu'ils ont quelque chose à y gagner.
So what we must say at this point is, you know, what has this project really been about? And I think it's been a class war waged by the rich against the poor, and I think they won.
Et aujourd'hui, donc la question se pose, quel était réellement l'objectif de ce projet? Mais pour moi, c'est une guerre de classe menée par les riches contre les pauvres, et il faut bien se rendre compte que les riches ont plutôt gagné.
Ladies and gentlemen, we have the 100 drippers in the house tonight, and they just got back from Washington D.C. I think they got something they want to say.
These United States are confronted with an economic affliction of great proportions.
Ronald Reagan.
The economic ills we suffer have come upon us over several decades.
I think they got something they want to say.
They will not go away in days, weeks, or months. But they will go away.
20 janvier 1980.
They will go away because we, as Americans, have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Some people say that he's guilty,
that he's guilty.
Some people say, I don't know,
I don't know.
Some people say, give him a chance,
give him a chance.
Is a nation with a mission.
George W. Bush.
And that mission comes from our most basic beliefs.
2003.
We have no desire to dominate, no ambitions of empire.
Yes, he's the president.
Oh, no, we can't do that, man. No.
Yes, he's the president.
Shut up, fool.
Our aim is a democratic peace, a peace founded upon the dignity and rights
behind the walls
of every man and woman. Side, yet we understand our special calling. This great republic will lead the cause of freedom.
Une arme, on a parlé de la propagande, on a évoqué rapidement la propagande, le système de propagande. Il y a aussi le FMI et la Banque mondiale qui ont été le bras armé, disons, de ces politiques à travers le monde. Le traducteur veut faire sa petite réflexion.
Non, c'est simplement intéressant de noter que le FMI et la Banque mondiale sont aujourd'hui présidés par deux socialistes français. Donc la France est très fière d'aider dans ce sens au projet néolibéral.
Et j'en retourne à la traduction. Et monsieur Lamy. Voilà. C'était la note.
La petite traduction. Voilà,
congratulations.
Félicitations.
No, I think what we see with the bank and the IMF is that they are both in some kind of a crisis right now.
Ce qu'on observe avec le FMI et la Banque mondiale, c'est que eux-mêmes sont en crise aussi.
As well as the World Trade Organization.
Tout comme l'Organisation mondiale du commerce.
And the thesis of the book is that this ideological, well, it's not even an ideological campaign, it's an economic project. And it has used ideology to advance.
L'idée de mon livre, c'est que cette campagne politique, mais en fait qui est plus une campagne économique, a utilisé l'idéologie pour avancer, pour progresser.
It began with overt and explicit terror and violence.
Ça a commencé avec une terreur, une violence totalement à découvert.
It continues today through those means in Iraq. It has returned to its bloody roots.
Ça continue exactement de la même façon aujourd'hui en Irak, ça reprend le même chemin, un chemin tout aussi sanglant.
I was in Argentina when the war in Iraq began.
J'étais en Argentine quand a commencé la guerre en Irak.
And I had the privilege of learning about the way the war in Iraq looked through the eyes of my Latin American friends.
Et ce que j'ai pu voir à ce moment-là, c'est comment on percevait la guerre en Irak chez mes amis latino-américains.
And what they said is they're doing to Iraq what they did to us.
Et ce qu'ils me disaient, c'est ils sont en train de faire à l'Irak ce qu'ils nous ont fait à nous.
But what we had between the bloody birth and the bloody present of this economic project.
Mais ce qui se passe entre la naissance violente et sanglante de ce projet et ses conséquences tout aussi sanglantes et tout aussi violentes aujourd'hui
was a couple of decades when the main tool for imposing these policies was economic crises with the help of the World Bank and the IMF.
Eh bien, la période entre ces deux moments violents, c'est une période où on a utilisé des crises pour faire avancer le projet avec l'aide du FMI, de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale du commerce. Mm-hmm.
Vous dites que la guerre en Irak pour Bush, Cheney et Rumsfeld a été et est l'occasion d'ouvrir des nouveaux marchés pour qui veut, mais notamment pour les États-Unis.
Well, I think that there were two kinds of privatized markets that they saw in Iraq.
Je pense qu'il y a deux types de marchés à privatiser qui les intéressaient en Irak.
One was this idea that they could use Iraq as a model state to crack open the final frontier for neoliberalism, which is the Arab world, which is very state protected compared to Latin America, Africa, Eastern Europe.
L'idée, c'était d'une part d'enfoncer un coin en Irak dans ce qui était vraiment la dernière frontière dans une région du monde où l'État restait encore très important.
So they wanted to privatize Iraq's industry, Iraq's oil.
Donc ils voulaient privatiser l'industrie, le pétrole.
And they predicted a tsunami effect throughout the Arab world, that once they were able to turn Iraq into a privatized economy, the rest of the neighboring countries would follow, like Saudi Arabia, Iran.
Et en fait, ils s'imaginaient qu'il allait avoir un effet domino et qu'une fois qu'on avait installé ce système en Irak, eh bien, ça allait se propager dans les autres pays de la région.
We see that that was a very bad plan. It didn't work out that way.
On voit bien aujourd'hui que le plan n'a pas marché aussi bien qu'ils l'imaginaient.
But they had another plan, which was that the war itself was privatized. So they had an economy in the failed war and the failed occupation. The worse things get in Iraq, the bigger business it is for companies like Halliburton and Blackwater.
Et l'autre,
so it's post-modern in a way.
L'autre projet, c'était que la guerre elle-même soit privatisée et que même si on s'enfonce dans un bourbier, eh bien, ça profite à des grandes compagnies comme Blackwater, comme Halliburton. Et dans ce sens-là, c'est un peu un conflit post-moderne.
And it's post-modern in the sense that it's not just that these companies are making money off the war. It's that Iraq is their laboratory for levels of privatization that we have never seen in recent history, like privatization of prison interrogation, even privatization of torture. The green zone is completely run by Halliburton. It is a Halliburton city-state, like the Vatican, but run by Halliburton.
Et donc, c'est post-moderne, pas uniquement dans le sens où ces compagnies, ces grandes sociétés, Halliburton, Blackwater, génèrent des profits, mais parce qu'on a utilisé l'Irak comme un laboratoire pour penser des niveaux de privatisation qu'on n'avait jamais imaginé avant. Aujourd'hui, on a privatisé la torture des prisonniers, les camps dans lesquels on les parque. La zone verte aujourd'hui est totalement gérée par Halliburton.
And now these companies come home and they look for new markets.
Et aujourd'hui, ces grandes entreprises rentrent aux États-Unis et cherchent de nouveaux marchés.
And the markets they see are natural disasters, border control, even genocide prevention.
Et donc les marchés qu'ils voient, c'est les catastrophes naturelles, contrôle des frontières, la prévention des génocides.
So Iraq has been very useful for this massive homeland security industry, as it's called.
Et donc l'Irak a été très très utile pour ce business de la homeland security, de la sécurité nationale.
Mais Monsieur Obama va leur trouver du boulot en Afghanistan.
Oh, absolutely.
Ah, tout à fait.
Obama has refused to, he's been asked directly, will you call for the removal of Blackwater in Iraq?
Obama, bien qu'on lui ait demandé formellement, allez-vous demander le retrait de Blackwater d'Irak?
And he has said no, they'll stay, despite the fact that they have been engaged in massacres.
Il a dit non, ils resteront, et tout ça, malgré le fait qu'on sait très bien aujourd'hui qu'ils ont été impliqués dans tout un tas de massacres.
And of course he wants a massive escalation in Afghanistan.
Et aussi, il faut rappeler qu'il est en faveur d'un renforcement du nombre de troupes américaines en Afghanistan.
Against us all.
C'est une guerre contre nous tous.
This war in Iraq isn't the end, it's the beginning of wars to come. All around the world, at the whim of the neocons in the White House. This is the Bush doctrine come to life.
Cette guerre en Irak, ce n'est pas la fin. C'est le début des guerres à venir. À travers le monde, au bon vouloir des néoconservateurs de la Maison Blanche. C'est la doctrine de Bush.
La guerre.
Encore plus de guerre.
War brought to you by the big corporate masters who run the show. This isn't just a war on Iraqis or Afghanis or even Arabs or Muslims. It is ultimately a war on us all.
Une guerre lancée par les grands patrons qui tiennent la boutique. Ce n'est pas uniquement une guerre contre les Irakis, les Afghans, les Arabes ou même les musulmans. Au bout du compte, c'est une guerre contre nous tous. Tout ça parce que les milliards qui sont dépensés pour cette guerre, pour des tanks, des missiles, des balles, et même, oui, des salaires des 125 000 soldats, c'est de l'argent qui ne sera jamais dépensé pour l'éducation, la santé, la reconstruction des logements sociaux, ou pour former et donner un travail aux millions de travailleurs qui ont perdu leur boulot. La guerre en Irak, en fait, est une guerre contre les travailleurs et les pauvres qui, chaque jour, reçoivent moins, alors que les industries de l'armement font à malheur, littéralement. C'est quoi la suite? L'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Venezuela? Nous avons vu les médias privés se faire les porte-voix de la Maison Blanche pour construire et vendre une guerre sur des mensonges. La guerre est d'abord utilisée par les puissances impérialistes pour écraser les ennemis internes. On voit bien à quoi elle ressemble quand on voit l'état déplorable du système éducatif américain. Les retraités qui vont acheter leurs médicaments au Canada parce qu'aux États-Unis, c'est trop cher. Les menaces de privatisation de la sécurité sociale et la vague de répression qui accompagne une police toujours plus militarisée.
And the struggle against war is really a struggle for a better life for the millions of folks who are in need here in this country.
C'est une guerre contre nous tous. La lutte contre la guerre est une lutte pour une meilleure vie. Pour les millions de gens qui sont dans le besoin dans ce pays.
The fight against the war is really to fight for your own interests, not the false interests of the defense industries or the corporate media or the White House. Down with the wars for empire.
La lutte contre la guerre, c'est une lutte pour défendre nos intérêts, pas ceux de l'industrie de la défense, des médias privés ou de la Maison Blanche. À bas les guerres impériales.
From death row, this is Mumia Abu Jamal.
Depuis les couloirs de la mort, ici Mumia Abu Jamal.
On est avec Naomi Klein pour son livre « La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre » avec une traduction de Renaud Lambert. Et je suis sûr de ce que pensent certains auditeurs. C'est extraordinaire, cette femme qui est là en train de critiquer le capitalisme. Avec... Mais alors, elle parle pas du tout du 11 septembre. Votre invitée, elle parle pas du tout du 11 septembre. Quand est-ce que vous allez lui poser la question sur le 11 septembre? Quel sens elle donne à ce 11 septembre? Le 11 septembre de New York, pas celui de Santiago du Chili.
Well, that was a pretty classic example of the shock doctrine, of the strategy of shock.
Donc ça, c'est un exemple parfait de la stratégie du choc.
We saw how immediately the Bush administration recognized the usefulness of this crisis.
On a bien vu comment l'administration Bush a tout de suite noté à quel point cette situation pouvait lui être utile.
And they used that shock to pass through many unpopular policies, the Patriot Act, for instance.
Donc ils ont utilisé cet état de choc pour faire passer tout un tas de législations rejetées par le public, comme le Patriot Act.
But more importantly, they declared this endless war on terror everywhere forever.
Mais de façon plus importante, à mon sens, ça leur a permis de déclarer cette guerre sans fin contre le terrorisme partout et tout le temps.
And they privatized it simultaneously.
Et en plus, au même moment, ils l'ont privatisé.
So really, the war on terror is better understood as a new economy than it is as a war.
Et donc, il faut vraiment comprendre cette guerre contre le terrorisme plutôt comme une nouvelle économie que comme une guerre.
And we see that in the way they treated the war on terror as a wide open faucet for public funds to gush into private hands.
On voit très bien avec la guerre contre le terrorisme comment ils ont mis en place une espèce de moyen pour des fonds publics de s'engouffrer dans les poches profondes des intérêts privés.
All without open competition, the so-called no-bid contracts.
Tout ça sans la moindre compétition, c'est des contrats où il n'y a qu'une seule personne qui présente une proposition.
Also no risk because the contracts are what they call cost plus, which means that your costs are covered plus your guaranteed profit.
Donc sans le moindre risque, puisque les contrats qu'on signe sont des contrats qu'on appelle cost plus, donc ça veut dire que les coûts sont couverts et les profits sont assurés.
So no risk capitalism.
Donc c'est du capitalisme sans risque.
And so it's entirely consistent that their final gift to Wall Street would be to nationalize the debts.
Et donc en fait, c'est plutôt logique d'observer que leur dernier apport à Wall Street serait de nationaliser leurs dettes.
Site internet de Lehman Brothers.
Lehman Brothers est un acteur innovant, leader dans le monde de la finance et au service des grandes entreprises, des gouvernements, des institutions ainsi que des individus bénéficiant de hauts revenus, tout cela à travers le monde. La société dispose de sièges à New York, à Londres, à Tokyo et elle travaille dans plus de 40 pays à travers le monde.
Scott Freidheim.
Parlons de la stratégie de cette boîte.
Directeur général adjoint.
Vraiment, il y a quatre piliers à cette stratégie. Tout d'abord, développer des activités diversifiée. Deuxièmement, bien servir nos clients. Troisièmement, être excellent dans la gestion du risque, des coûts, des bilans. Et quatrièmement, et il n'y a rien de plus important que cela, c'est renforcer notre culture. C'est ça notre petit truc à nous.
Lehman Brothers
a grandi de façon diversifiée en développant ses activités bancaires, actions et gestion aux États-Unis et à l'étranger.
Jeremy Isaac, PDG.
En fait, il suffit de regarder les deux ou trois dernières années pour observer le chemin parcouru. Et cela nous permet de voir où nous allons. Et je pense qu'à ce stade, la vitesse accumulée est telle que nous avançons encore plus vite. Et c'est pour ça, quand je parle du futur, je suis si enthousiaste.
Naomi, vous dites cette idéologie est en crise. D'abord, il a fallu reconnaître que c'était une idéologie. Parce que très longtemps, tout ça a été présenté comme une évidence, comme quelque chose allant de soi, face à laquelle nous n'avions pas de choix. Au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, on nous a dit c'est la fin des idéologies. Ne parlons plus d'idéologie. Et peu à peu, quand même, grâce au travail de certains, c'est toujours un peu agaçant d'ailleurs que ce soit les Américains qui soient en train de lutter contre le capitalisme, parce que ça c'était notre boulot en principe en Europe. Mais mettons ça de côté. Mais bon, c'est vous qui le faites maintenant, tant mieux. Mais il a fallu qu'on montre que c'était une idéologie avant de dire qu'elle était en crise.
Mm-hmm. You know, this was another tactic to declare the end of history, the end of debate.
And bien sûr, ça c'était simplement une autre tactique de déclarer la fin de l'histoire, la fin du débat.
And it really, if you look at the tactics that have advanced neoliberalism over the past 35 years.
Et si on observe par quel biais le néolibéralisme s'est développé au cours des 35 dernières années,
what they all have in common is this determination to avoid debate.
Le point commun de toutes les stratégies mises en œuvre, c'est cette volonté farouche d'éviter le débat.
Now, The use of crisis is a very explicit example of this.
L'utilisation de la crise est un exemple très explicite de ça.
When there's a crisis, there's no time to debate. There's an emergency. We have to
Quand
just let people
Quand il y a une crise, on n'a pas le temps de débattre. Il y a des urgences. Il faut voilà, mettre en œuvre des solutions.
It's a democracy avoidance strategy.
C'est une stratégie d'évitement de la démocratie.
But all of the other slogans that have advanced the ideology have this trait in common. There is no alternative, Thatcher.
Mais tous les autres slogans qui ont été utilisés ont ça en commun. Par exemple, il n'y a pas d'alternative, de Margaret Thatcher.
The end of history.
La fin de l'histoire.
These are all ways of stopping discussion, not starting it.
Tout ça sont des propositions qui mettent un terme au débat.
But you know, some people are claiming that the ideology is dead for good.
Mais vous savez, il y a des gens qui disent que l'idéologie est morte pour de bon.
I think it can be killed.
Je pense qu'on peut la tuer.
But I don't think it's dead.
Mais je ne pense pas qu'elle soit morte.
Alors, because it will come back.
Parce qu'elle va revenir.
And when it will come back, we see very clearly when it will come back.
Et on voit très bien quand elle va revenir.
What the response to Wall Street's crisis and the global banking crisis, and this is true in Europe too, has been to transfer the private crisis to the public sphere.
La réponse à la crise de Wall Street aux États-Unis mais ailleurs a été de transférer cette crise du secteur privé au secteur public.
And what we know is that what is now a public crisis will be used to rationalize more cuts to social spending, more tax cuts, more deregulation to stimulate the market. So that's the next shock.
Et on sait très bien aujourd'hui que cette crise devenue aujourd'hui publique sera utilisée pour légitimer la nécessité évidente de réduire les dépenses publiques, de réduire les retraites. Et ça, si vous voulez, c'est le prochain choc à venir.
Mais on est quand même, la situation est quand même assez grave puisqu'on voit que la crise financière, ce qu'on appelle la crise financière, touche l'économie réelle et va entraîner d'autres destructions d'emplois, le blocage de la production industrielle, etc. On est quand même dans une situation extrêmement grave.
Absolutely, and indeed, this crisis was all very much already in the real economy. And what happened when Lehman Brothers collapsed was that, as Obama said, the crisis has trickled up from Main Street to Wall Street.
En fait, ce qu'il faut observer, c'est que la crise était déjà dans l'économie réelle. Et ce qui s'est passé au moment de la faillite de Lehman Brothers, pour reprendre les termes d'Obama, c'est qu'au lieu de dégouliner, de descendre de Wall Street jusqu'à chez nous, pauvres mortels, la crise est remontée de la rue jusqu'à Wall Street.
Quelles sont les solutions que vous imaginez, Naomi Klein?
Well, in this moment, I think it's clear the financial sector has failed on free market terms. The market wants these banks to die.
Pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, et pour reprendre uniquement des logiques de marché, le secteur financier a échoué. Le marché veut qu'il meure.
And I think we should accept the market's verdict. Et je pense, stop trying to save them.
Peut-être une fois n'est pas coutume, il faudrait accepter le verdict du marché et arrêter d'essayer de les sauver.
And they need to be nationalized, and the profits need to be in the public hands as well, so that the pressing crises of our times, which are not just the financial crisis, it's the global ecological crisis, which demands resources to address, that we have these resources.
Et je pense que donc ce secteur financier doit être nationalisé, que les profits qu'il génère doivent être entre les mains du public pour répondre à toutes les autres crises que nous rencontrons, qui ne sont pas que des crises financières, mais des crises écologiques, qui vont nécessiter pour leur résolution des fonds qui peuvent très bien venir de là.
Ce qui est drôle, c'est que tout le monde est d'accord avec vous en ce moment. C'est-à-dire que tout le monde dit, on l'avait bien dit.
Well, that's why in a moment like this, you should go further. So I'm also calling for the internationalization of the oil companies.
C'est exactement pour ça qu'il faut être encore plus exigeant à ces moments-là. Et donc, moi, j'en appelle à l'internationalisation des compagnies pétrolières, ce qui veut dire donc l'appropriation collective à un plan international de ces compagnies pétrolières.
J'ai compris.
So that their massive profits can be used to finance a switch to green energy.
Et donc, on pourrait très bien utiliser les milliards de bénéfices qu'ils produisent pour en passer à une énergie verte, une énergie écologique.
The point is that it's a moment for the left to be on the offensive.
Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moment très opportun pour que la gauche soit à l'offensive pour une fois.
Mais quelle gauche? Elle n'est pas offensive du tout. Je ne sais pas la gauche chez vous au Canada, mais la nôtre, elle est toute molle. Elle dit rien, puisqu'elle a participé à cette révolution conservatrice néolibérale. Elle y a participé. En France, elle a été vous avez eu Thatcher, Reagan, et nous, on a eu François Mitterrand. C'est-à-dire que c'est la gauche. Le libéralisme est entré en France par la gauche, et il est toujours. Il n'y a pas de gauche en France, Naomi Klein.
I'm sorry to hear that.
Je suis désolé de l'apprendre.
I've heard rumors.
J'en avais un petit peu entendu parler, il y avait des rumeurs.
Merci à toutes. Merci à Naomi Klein, La stratégie du choc. C'est aux éditions Actes Sud. Le bouquin est sorti il y a 2 ans, je crois, mais il est toujours, vous l'avez entendu, d'actualité. Traduction, vous l'aviez reconnu aussi, celui-là, Roland Lambert. Et puis, un petit conseil, de là-bas, si j'y suis, pour finir cette heure. Un livre absolument magnifique, un polar, qui s'intitule La vieille dame qui ne voulait pas mourir avant de l'avoir refait. Et c'est d'un oiseau qui s'appelle Margot des Marguerites. Et ce gars-là, il m'a envoyé un petit mot très très sympa qui dit oui, tu nous as piqué l'expression modeste et géniale, qui est le petit gimmick de cette émission depuis des années. Et c'est vrai, et c'est vrai. Il y avait un spectacle magnifique qui s'appelait le Cirque Archaos et qui finissait comme ça en disant mais c'était un spectacle modeste et génial, on avait fait un reportage il y a bien des années et je leur ai piqué cette expression et dit tu me l'as amoureusement volé. C'est vrai. Et lui, Margot des Marguerites, à cette époque-là, il était Bibic le clown. Bibic le clown de tôle, ils étaient irrésistibles. Et voilà, et ben le temps est passé. Et Bibic le clown est devenu un auteur de polar. Et ce bouquin est magnifique. La vieille dame qui ne voulait pas mourir avant de l'avoir refait, c'est à la manufacture du livre. Merci à tous et à toutes. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org. Cédric Lalanne et Stéphane Poitvin étaient à la technique aujourd'hui. Koyen Guyen et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.